Chapitre 55. Callan se pencha vers Richard et lui caressa le dos. Assis à une petite table, le sourcier étudiait depuis un moment un antique document.
« Tu as trouvé quelque chose ?» demanda l'inquisitrice.
« Je ne sais pas encore, mais ce texte-là est intéressant. Il contient plus d'informations que les écrits d'Under conservés dans la bibliothèque du ministère. »«
C'est une bonne chose. Je vais me dégourdir un peu les jambes et voir ce que font les autres. »
Richard répondit d'un grognement distrait. Les deux jeunes gens avaient passé 2 jours à la bibliothèque à consulter tout ce qui se rapportait à Joseph Under. Les textes du grand homme parlaient surtout de lui et de tout ce qu'il affirmait avoir découvert au sujet de l'âme humaine. À l'en croire, ses observations étaient des dizaines de fois plus pertinentes que celles de ses prédécesseurs. Et pour convaincre son lecteur, il n'hésitait pas à consacrer des pages entières à ce passionnant sujet. Il y avait de quoi en rester pantois. On aurait cru entendre les discours pompeux d'un adolescent qui pense tout savoir alors qu'il est un parfait ignorant. Devant tant de fatuité, le malheureux lecteur soupirait d'accablement et renonçait vite à corriger les déclarations péremptoires et prétentieuses qu'un homme adulte aurait dû avoir depuis longtemps appris à éviter. Joseph Under était convaincu d'avoir trouvé l'endroit où il pourrait être le berger dont les brebis mèneraient une vie parfaite. Dans ce sanctuaire, aucune force extérieure ne serait en mesure de perturber sa communauté idéale, ainsi qu'il l'appelait. À force de réflexion, expliquait-il avec le plus grand sérieux, il s'était avisé qu'il n'avait plus besoin de l'avis des autres, les sorciers de la forteresse, bien entendu. L'influence de ces charlatans, ajoutait-il, était mortellement dangereuse parce qu'elle instillait la souillure suprême, l'individualisme, dans l'âme simple et pure de ses brebis. Aucun autre nom que le sien ne figurait dans les écrits de Joseph Under. Pour parler des gens, il disait toujours « cet homme » ou « cette femme », et quand il décrivait des actions collectives, c'était immanquablement le peuple qui en était l'auteur anonyme. En réalité, Joseph Under avait trouvé la terre promise, pour lui-même, un pays où nul n'était aussi puissant que lui et où tout le monde l'adorait. Selon Richard, ce qu'il prenait pour de la vénération était en réalité de la peur. Mais quoi qu'il en fût, cette situation lui permettait de se poser en chef incontestable d'une société où nul autre que lui n'était autorisé à faire montre d'individualisme ou d'un talent supérieur à la normale. Joseph Under pensait avoir fondé un pays bien heureux, où la souffrance, la jalousie et la cupidité n'existaient plus, bref, où l'altruisme avait remplacé l'égoïsme. La purification culturelle, un très joli synonyme d'exécution capitale, assurait l'équilibre de cette souriante communauté. Joseph Under appelait cela « éliminer la chienlit ». Bref, Under était vite devenu un tyran. On croyait en lui et en sa philosophie, où on mourrait. Richard avait quand même pris le temps de serrer tendrement la main de Callan avant qu'elle s'en aille. Le petit temple étant trop exigu, leur compagnon n'avait pas pu y entrer. Au grand dam du vieil homme chargé d'entretenir la précieuse relique, le sourcier avait pris place dans le fauteuil du fondateur d'Anderit. Bien qu'il eût protesté d'abondance, le gardien n'avait pas eu le cran d'opposer un refus au seigneur Rall. Richard n'avait pas cédé à un caprice. Il voulait s'asseoir dans le siège du grand homme, pour mieux sentir sa personnalité. Callan, elle, n'avait pas eu envie de s'appesantir sur les vibrations d'un despote mort 3000 ans plus tôt. En bas du chemin menant au temple, des habitants de Westbrook s'étaient rassemblés pour observer les visiteurs. Lorsque Callan les salua de la main, ils écarquillèrent les yeux et certains tombèrent à genoux, reconnaissant qu'elle ait daigné tourner la tête vers eux. Ici comme ailleurs, des soldats d'Aran étaient venus annoncer le scrutin et présenter la position du seigneur Rall. La mère inquisitrice et le maître de Dara étant chez eux, les citadins espéraient qu'ils leur en diraient plus sur l'intérêt pour leur pays de s'unir à l'empire d'Aran. Beaucoup de membres des contrées du milieu avaient déjà pris cette décision, mais pour ces gens, l'alliance, dont ils faisaient pourtant partie, n'était qu'une très vague et très étrange organisation. Dans leur petite ville, on entendait rarement parler du monde extérieur, et les nouvelles, la plupart du temps, tenaient plus de la rumeur que d'autre chose. Aidés par les maîtres de la lame de Duchayu, des soldats d'Aran tenaient courtoisement mais fermement les curieux à l'écart, pendant que leur seigneur étudiait les reliques du père fondateur de la nation andérienne. Richard avait dit et répété à tous ses hommes de se montrer amicaux et d'éviter à tout prix l'agressivité. Callan aperçut la femme esprit des Bakataumana, assis sur un banc un peu à l'écart du chemin. À l'ombre d'un cèdre séculaire, du Chahu méditait paisiblement. L'inquisitrice respectait de plus en plus sa rivale. Avec une admirable détermination, elle avait insisté pour rester avec Richard, et cela dans le seul but de l'aider. Bien qu'elle continuât à affirmer que le Kaharin était son époux, Callan ne s'agaçait plus de sa présence. Le jour où le sourcier était tombé de cheval en hurlant, les choses auraient pu très mal tourner si elle n'avait pas été là. Bien sûr, elle n'avait pas manqué de répéter à Richard qu'elle était disponible, s'il la désirait, comme une épouse digne de ce nom, mais cela n'avait rien à voir avec les avances incendiaires de Nedine. En fait, il s'agissait plutôt d'une étrange forme de politesse. Même si elle n'aurait pas été malheureuse que le Kaharin jouisse de toutes ses prérogatives d'époux, elle ne semblait pas y tenir plus que ça. Simplement, elle était disposée à tout pour ne pas contrevenir aux lois de son peuple. Du Chahu vénérait ce qu'incarnait Richard, pas l'homme en lui-même. Et si cela ne consolait pas son mari, Callan en était profondément soulagé. Tant qu'il en serait ainsi, les deux femmes pourraient vivre dans une sorte d'entente cordiale. Pas sans arrière-pensée cependant, parce que Callan, instruite par l'expérience, se méfiait de la Bakataumana dès qu'il était question de Richard. Du Chahu voyait l'inquisitrice comme une dirigeante importante, une magicienne et une épouse de Richard. Bref, exactement ce qu'elle était aussi. À sa grande honte, l'inquisitrice devait bien reconnaître qu'être traitée en égale avec la femme esprit l'agaçait encore plus que tout le reste.
« Je peux m'asseoir près de toi ?»
demanda-t-elle. Du Chahu s'adossa au tronc du cèdre et tapota la place libre à côté d'elle. Callan lissa sa robe blanche et s'assit avec grâce. Sur leur banc, elles étaient quasiment invisibles pour quiconque descendait ou remontait le sentier. Cet endroit intime et romantique semblait un refuge plus approprié pour des amoureux que pour les deux épouses d'un seul et même homme.
« Tu vas bien, Du Chahu ? Tu as l'air un peu fatigué. »
D'abord étonnée par la sollicitude de l'inquisitrice, la femme esprit en comprit la raison et sourit amicalement. Puis elle prit la main de Callan, la posa sur son ventre rond et appuya doucement dessus. L'inquisitrice sentit un mouvement, celui de la vie qui grandissait dans le ventre de la Bakataumana. Du Chahu sourit fièrement. Callan retira sa main et la posa sur ses genoux. Levant les yeux vers les nuages qui s'accumulaient dans le ciel, elle songea que les choses n'auraient pas dû être ainsi. Depuis toujours, elle pensait que ce moment-là devait être joyeux et enthousiasmant.
« Tu n'as pas aimé le sentir bouger ?» demanda Du Chahu.
« Pardon ? Non, ce n'est pas ça, voyons. J'ai trouvé ce contact merveilleux. »
Du Chahu saisit le menton de l'inquisitrice et la força à baisser les yeux sur elle.
« Callan ! « Tu pleures ? Mais non, ce n'est rien.
Tu es malheureuse parce que j'ai un enfant ?
Que vas-tu chercher là ?
Parce que j'ai un enfant et pas toi ?»
Craignant d'en dire trop, l'inquisitrice ne répondit pas.
« Tu ne devrais pas t'en faire, mon ami. Tu auras bientôt un petit. Oui, ça arrivera.
Du Chahu, je suis enceinte.
Vraiment ? Voilà qui m'étonne. « Jian ne m'a pas dit que notre mari et toi aviez été ensemble de cette façon-là »
Callan fut choqué d'apprendre que la femme esprit recevait des rapports de ce genre. En un sens, elle fut soulagée que Du Chahu n'ait rien eu de croustillant à se mettre sous la dent, mais elle le regretta aussi parce que ça l'aurait sans doute un peu vexé.
« Notre époux doit être content, il a l'air d'aimer les enfants, et il fera un bon... »«
Richard n'est pas au courant, »
coupa Callan.
« Et tu vas me promettre de ne rien lui dire. »
Pourquoi devrais-je te jurer ça ?
Parce que sans moi, Richard ne t'aurait pas laissé venir.
Souviens-toi que tu avais promis de partir dès que les soldats nous auraient rejoints, et qui a insisté pour que tu restes ?
Bon, si ça te fait plaisir, je garderai le secret. Comme ça, tu pourras lui faire la surprise quand tu voudras.
Du Chahu sourit.
Les épouses du Kaharin doivent être solidaires.
Merci.
Mais quand avez-vous...
Le soir de notre mariage dans le village du peuple d'Adobe, peu avant ton arrivée.
Ah, c'est pour ça que je n'en ai rien su. »
Callan préféra faire comme si elle n'avait rien entendu.
« Mais pourquoi ne veux-tu rien dire à Richard? Il serait si heureux. »
« Non, tu te trompes.
C'est une catastrophe, au contraire. »
Callan prit entre le pouce et l'index le collier que lui avait offert Shota.
« C'est le cadeau d'une voyante pour nous empêcher de concevoir un enfant. T'expliquer pourquoi serait trop long, mais il vaut mieux que nous n'en ayons pas jusqu'à nouvel ordre. Sinon, nous aurons de gros ennuis. »
« Alors comment peux-tu être enceinte ?»«
C'est à cause des carillons. La magie n'agit plus, mais nous ne le savions pas ce soir-là. Le collier n'a pas joué son rôle et ce n'était pas prévu au programme. »
Callan se mordit à l'intérieur des joues pour ne pas pleurer de nouveau.
« Richard sera quand même content, »
dit Duchayu pour la consoler.
« Non, non. Tu ne mesures pas la gravité du problème. Si on découvre que je suis enceinte, la vie de Richard sera menacée. La voyante a juré d'étrangler l'enfant, mais elle ne s'arrêtera pas là, je la connais. Pour éliminer définitivement le risque, elle décidera de tuer le sourcier. Ou de m'abattre. »
Duchayu réfléchit quelques instants.
« Cet absurde vote aura lieu très bientôt, » dit-elle.
« Quand les gens auront dit à Richard ce qu'il devrait déjà savoir, qu'il est le Kaharin, tout s'arrangera, et tu pourras aller te cacher quelque part pour avoir ton enfant. »
La femme esprit posa une main sur l'épaule de Callan.
« Tu viendras avec moi et les Bakataumana te protégeront. »
Callan inspira à fond pour étouffer un sanglot.
« Merci, Duchayu, tu es vraiment gentil. Mais ça ne suffira pas. Je dois me débarrasser de cet enfant. Un herboriste ou une sage-femme pourra m'aider, mais il faut que j'agisse vite. »
Duchayu reprit la main de Callan et la reposa sur son ventre. Quand elle sentit le bébé bouger, l'inquisitrice ferma les yeux.
« Tu ne dois pas nuire à la vie qui est en toi, Callan. C'est l'amour qui te l'a donné. Ne le fais pas, car tu aurais de plus gros ennuis encore. »
À cet instant, Richard sortit du petit bâtiment un rouleau de parchemin à la main.
« Callan ? »
appela-t-il. L'inquisitrice l'apercevait à travers le feuillage, mais il ne la voyait pas.
« Duchayu, » dit-elle, « tu as promis de garder le secret. »
La femme esprit sourit et caressa la joue de son ami avec une tendresse toute maternelle. Callan comprit que ce n'était pas seulement un geste consolant de la femme qui se croyait la première épouse de Richard. La chef spirituelle des Bakataumana venait de l'assurer de son soutien et de sa compréhension. En se levant, Callan afficha ce qu'elle appelait son masque d'inquisitrice. Richard la vit, accourut, fut surpris de la découvrir en compagnie de Duchayu, jugea judicieux de ne pas poser de questions et lui montra le document qu'il avait découvert.
« J'étais sûr que ça avait un rapport avec le verbe « dresser », »
lança-t-il.
« De quoi parles-tu ? »
demanda Callan.
« Des Dominidurch.
Regarde ce passage.
Il dit qu'Ander ne redoutait pas l'intervention de ses collègues jaloux parce qu'il était protégé par les démons.
Et alors ? »
fit Callan, qui n'avait pas compris un mot de ce discours enflammé.
« Pardon ? »
Richard leva les yeux du texte.
« Oui, oui. Quand tu m'as parlé des Dominidurch, je me suis dit que c'était du Haut-Daran, mais je n'arrivais pas à trouver une traduction. Encore une de ces expressions à multiples sens qui me posent tant de problèmes. Bref, le mot « domini » signifie « dressage », avec une nuance plus didactique que lorsqu'on parle du dressage d'un animal. Il y a aussi une idée de contrôle, mais plus par la formation que par la force. Maintenant que les pièces du puzzle s'emboîtent, je peux formuler une traduction acceptable. « Dominidurch » signifie « dressage des démons ».«
Fascinant, » admit Callan.
« Cela posé, ça nous avance à quoi ?»«
Je l'ignore, mais tout ça est lié, j'en suis sûr.
Si tu le dis. »
Richard plissa le front et étudia son épouse.
« Quelque chose ne va pas ? Je te trouve, je sais pas, ton visage a l'air bizarre.
Merci du compliment. »
Richard s'empourpra de confusion.
« Je ne voulais pas dire qu'il ne me plaisait pas.
Il n'y a rien de grave, n'aie pas d'inquiétude.
Je suis fatigué après tous nos voyages pour prêcher la bonne parole. Tu connais un endroit appelé La Fournaise ?»
demanda à Brûle-Pourpoint le sourcier.
« Oui, attends que je me souvienne. Ce n'est pas très loin, en fait, un peu au-dessus de la vallée de Naref.
Combien de temps faudrait-il pour y aller ?
2 heures environ.
Si c'est important, nous pourrions y être au milieu de l'après-midi. »
Ander en parle dans ce texte. Il relie indirectement ce lieu aux démons, les Domini Dirge. C'est ce passage qui m'a permis de faire le lien. »
Richard tourna la tête vers les habitants de Westbrook qui attendaient impatiemment en bas du chemin.
« Quand nous aurons parlé à ces braves gens, j'aimerais aller jeter un coup d'œil à la fournaise. »
« Eh bien, je n'y vois pas d'inconvénient parce que c'est un endroit charmant. »
Callan prit le bras de son mari.
« Maintenant, allons convaincre ces braves gens, comme tu dis, de tracer un cercle sur leur bulletin de vote. »
L'assistance était surtout composée de Haken qui travaillaient dans les fermes environnantes. Comme tous les citoyens d'Anderite qui étaient venus les écouter partout dans le pays, ceux-là semblaient très inquiets. Informés qu'il y avait du changement dans l'air, ils redoutaient que leur vie en soit bouleversée. Au lieu de se lancer dans un discours formel, Richard circula entre eux, leur demanda leur nom, sourit aux enfants et caressa la joue des plus petits. Parce qu'il agissait selon sa nature et pas pour impressionner son auditoire, il ne fallut pas 5 minutes pour qu'un cercle de gamins se forme autour de lui. Le voyant ébouriffer les têtes rousses aussi bien que les brunes, plusieurs mères sourirent et les pères eurent soudain le front un peu moins ridé d'angoisse.
« Brave Jean d'Anderite, »
dit le sorcier.
« La mère inquisitrice et moi sommes venus vous parler amicalement. Devant vous, ne voyez pas des chefs politiques, mais vos humbles champions. Nous n'entendons pas vous imposer notre volonté, seulement vous aider à mieux comprendre l'enjeu de ce scrutin, car c'est votre avenir qui se décidera bientôt. »
Voyant qu'il lui faisait signe d'approcher, Callan se fraya un chemin parmi les enfants et vint se camper près de son mari. Elle avait cru que les gamins auraient peur de ce colosse vêtu de noir, si imposant avec sa cape couleur or, mais ils se pressaient autour de lui comme s'il était leur oncle préféré. En revanche, ils furent impressionnés par sa robe blanche, symbole partout dans les contrées d'un pouvoir que peu de gens comprenaient vraiment. Callan regretta que les gamins s'écartent d'elle tout en essayant de ne pas trop s'éloigner de Richard. Elle aurait tant voulu qu'ils se pressent aussi autour d'elle. Mais elle comprenait leur réaction. C'était son fardeau et elle le portait depuis assez longtemps pour ne plus s'en étonner.
« La mère inquisitrice et moi, nous sommes mariés par amour. Nous aimons aussi les peuples des contrées et celui de Dara. Nous voudrions qu'ils s'unissent comme nous. Et le peuple d'Anderite serait le bienvenu dans cette alliance dont l'objectif, nous ne le dirons jamais assez, est de lutter pour la liberté. Venu de l'ancien monde, la tyrannie marche sur le nouveau. » L'ordre impérial vous réduira en esclavage. Avec lui, vous devrez choisir entre la soumission et la mort. À nos côtés, vous aurez une chance de vivre en paix. Unis, les contrées et Dara seront assez puissants pour repousser la menace, en tout cas nous l'espérons. Car si nous plions les chines sous le joug d'un despote, il nous rognera les ailes, et nous ne connaîtrons plus jamais la joie d'être libres. Nul ne pourra plus élever en paix sa famille, ni rêver d'un avenir meilleur pour les générations futures. Si nous ne nous dressons pas face à l'ordre impérial, la botte de l'oppression écrasera nos visages jusqu'à la fin des temps. Voilà pourquoi nous vous demandons de voter oui. Ensemble, nous construirons un monde plus juste et pacifique. Quand le moment sera venu, « dessinez un cercle sur votre bulletin de vote et nous saurons que vous êtes avec nous. »
Depuis des semaines, Callan écoutait Richard parler avec son cœur de la cause qui comptait plus pour lui que n'importe quoi au monde. Au début, les gens étaient toujours méfiants. Mais la sincérité du sorcier inversait vite la tendance. Il savait amuser son public, puis le conduire au bord des larmes en insistant sur l'exigence de liberté que tout homme portait dans son cœur. Devant les Haken, il insistait sur ce que deviendrait leur vie quand ils auraient, et leurs enfants avec eux, le droit d'apprendre à lire et de se cultiver. «
L'ordre impérial ne vous permettra pas de lire, car la connaissance est la pire ennemie des oppresseurs. Vos nouveaux maîtres vous enfermeront dans l'ignorance, parce qu'un peuple informé s'oppose toujours à l'iniquité qui favorise les élites. Avec nous, chacun aura le droit et le devoir d'apprendre, afin de pouvoir décider en toute connaissance de cause. » C'est une différence essentielle. J'ai confiance en votre jugement, alors que l'ordre impérial vous imposera sa loi. Ensemble, nous formerons une nation où la loi commune assurera la sécurité et la liberté de chacun. Et nul homme, qu'il soit juge, ministre ou empereur, ne sera au-dessus de cette loi. C'est le seul moyen, comprenez-le, pour que chaque individu soit authentiquement libre. Je ne viens pas à vous pour régner, mais pour creuser les fondations de la liberté. Mon père, Darkenral, était un dictateur qui ne reculait ni devant la torture, ni devant le meurtre. mais lui non plus n'était pas au-dessus de la loi qui, je l'espère, nous unira bientôt. Pour qu'il cesse de tromper son peuple, je l'ai renversé. Mes amis, je ne règne pas sur des sujets. Ma seule ambition est de guider des hommes libres. Je ne vous dirai pas comment vivre, parce que ce n'est pas mon rôle. Mon rêve est de vous voir mener en paix et en sécurité les existences que vous aurez choisies. Pour moi, je n'ai qu'une aspiration. Élever paisiblement les enfants que me donneront la mère inquisitrice et cesser de sentir peser sur mes épaules le fardeau du pouvoir. Pour votre salut et celui des générations futures, je vous implore de tracer un cercle sur votre bulletin de vote.
Appuyé contre un mur, Dalton Campbell écoutait avec une extrême concentration. Debout sur un balcon, le directeur Prévost, du bureau de l'harmonie culturelle, s'adressait à la foule massée sur une des plus grandes places de Fairfield. Il parlait depuis un moment et son auditoire ne réagissait pas trop mal. Il y avait surtout des Haken, alarmés par les rumeurs qui circulaient en ville. Terrorisés, ils n'étaient pas venus pour apprendre comment éviter une catastrophe, mais pour découvrir s'ils devaient vraiment redouter que leurs conditions de vie s'aggravent. Et c'était ça qui inquiétait Campbell.
« Devons-nous souffrir pendant que quelques privilégiés s'enrichissent ?»
demanda Prévost.
« Non !»
répondirent des centaines de gorges.
« Devez-vous crever à la tâche pendant que des darans se gobergeront ?»«
Non !»
cria de nouveau la foule.
« Après tous les efforts consentis par les Andériens pour la réhabilitation des Haken, laisserons-nous un seul homme réduire à néant des siècles d'harmonie culturelle ? Le seigneur Hall parle d'éducation, mais ne savons-nous pas que c'est le chemin du mal pour certains d'entre nous ?»
L'assistance acclama le directeur et quelques hommes agitèrent leurs chapeaux selon les instructions de Dalton. Une cinquantaine de ces messagers Haken, vêtus de leurs anciennes frusques pour l'occasion, faisaient de leur mieux pour exacerber les émotions de la salle. Ça marchait pour un petit nombre d'hommes et de femmes, mais les autres se taisaient, insensibles aux envolées lyriques du directeur. Leur seul souci, comprit Dalton, était de savoir en quoi leurs misérables existences changeraient. Ils voyaient les choses à leur échelle, ridiculement microscopique, et avaient une tendance naturelle à préférer l'immobilisme au changement. Ces points jouaient en faveur du plan de Bertrand, mais ils risquaient de ne pas suffire. Dalton était de plus en plus mécontent. Même s'ils approuvaient Prévost, ces gens ne se sentaient pas assez menacés par les propositions du camp adverse. Le problème était là. Le message passait, mais il tombait dans des oreilles indifférentes.
« Il parle très bien, » souffla Teresa, debout à côté de son mari.
« Oui, » marmonna Dalton, « pour ça c'est un beau parleur. »
« Et il a raison. Les Haken souffriront si nous cessons de nous occuper d'eux. Ils ne sont pas aptes à affronter seuls la cruauté de la vie. »
Dalton laissa son regard errer sur les Haken apathiques qui regardaient le directeur péroré.
« Oui, ma chérie, tu as raison. Nous devons faire plus pour aider le peuple. »
Dalton venait de comprendre ce qui clochait, et maintenant il savait ce qui lui restait à faire.